Nous aurons l'occasion encore de louer le Seigneur par la suite. Alléluia, Jésus. Si jamais vous voulez vous approcher pendant le temps de louange devant, n'hésitez pas, parce qu'on n'a plus le streaming, donc il n'y a plus le risque de caméra, d'être dans le champ, d'être en vision. On ne filme que pendant le message maintenant. Donc voilà, soyez en tout cas encouragés, sentez-vous libre aussi par rapport à peut-être l'image ou de passer en direct. Donc il n'y a plus cela pendant la louange et même après le message. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis très réjoui de vous voir tous. Et j'espère que vous avez eu des bons temps pendant ce temps de l'ascension. Il y a bien des gens qui ont vécu des choses différentes. Il y a eu des camps, il y a eu des ventes de pâtisseries dans la rue, il y a eu des rencontres de famille, il y a eu des camps aussi avec différentes personnes. Voilà, vraiment, en tout cas, soyez bienvenus tous après cette semaine particulière. Et j'aimerais ce matin rester dans ce thème de regarder au ciel, comme les disciples qui ont regardé au ciel, dans ce que Patrick nous a lu tout à l'heure. Merci Patrick. Et j'aimerais prendre un texte avec vous, qui va être l'objet aussi de ce que j'avais sur le cœur à vous partager. On va lire ensemble dans l'Épître aux Colossiens et les chapitres 3, le chapitre 3, les versets, les premiers versets. Donc on va voir qu'on est dans ce thème de l'ascension avec les choses d'en haut qui commencent au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, certaines traductions, affectionnez-vous aux choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, c'est tout ce qui est sexualité hors du cadre du mariage, c'est pour ça que c'est inconduite, ça dépend des traductions, débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, on pourrait dire ni juif, ni non-juif, qui n'était pas dans l'alliance prévue, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Waouh, quel texte, hein, n'est-ce pas ? Tout un programme, tout un programme. Mais avant d'entrer dans ce programme, j'aimerais faire quelques mots de contexte. C'est vrai que l'ascension est une fête que nous fêtons peu dans nos églises évangéliques. Très souvent, on met plus d'importance à la fête de Pâques. Jésus est mort et ressuscité. On met plus d'importance à Noël aussi. La venue de Jésus dans ce monde, l'incarnation. Et puis, bien sûr, Pentecôte, le Saint-Esprit qui nous est donné. Et parfois, cette fête de l'Ascension passe un peu à la trappe. Elle est un petit peu là, entre deux grandes fêtes, qui est Pâques et Pentecôte. Et c'est vrai qu'on se dit que finalement, ben, voilà, Jésus est monté au ciel, il a terminé son travail, il a fait son job. Puis voilà, ça s'arrête là. On n'y pense pas plus que ça. Et on n'en parle pas plus que ça. Mais il me semble qu'on peut en dire un peu plus. Tout d'abord, nous sommes d'accord sur le premier sens de l'ascension, et Patrick l'a rappelé, c'est que le fait que Jésus soit monté, il a pu nous envoyer l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus dit quand il est avec ses disciples. Il dit, il est avantageux que je m'en aille afin de vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclet. Et donc, c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Mais un autre sens fondamental, il me semble, de l'ascension, c'est l'élévation. C'est le fait que Jésus s'élève. Et je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ça. Revenons un petit peu en arrière. Jésus est mort, il a donné sa vie, son sang a coulé, il est mort à la croix, et Dieu, son Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus reçoit un corps glorieux, un corps de résurrection. Il a vaincu la mort. Jésus ne mourra plus jamais. Quelle victoire incroyable! Avec ce corps qu'on pourrait décrire avec des mots étonnants. C'est un corps à la fois comme le nôtre, biologique on pourrait dire, mais en même temps qui a des propriétés que nous ne connaissons pas. Ce corps que Jésus a eu pendant 40 jours sur terre, qu'il a partagé avec ses disciples après Pâques, a des composantes à la fois qui ressemblent aux nôtres et qui ne sont pas comme les nôtres. Si vous regardez un petit peu, et dans ce qu'il a vécu pendant ces 40 jours, il a mangé avec ses disciples, hein, il a fait du bon poisson frit au bord du lac de Génézareth, pour ceux qui voient un petit peu la scène et qui aiment bien les grillades au bord du lac. Il a été aussi avec eux, il a vécu avec eux, il a marché avec eux. Et à un moment donné, même quand il leur a apparu la première fois, ils ont dit, mais est-ce que c'est lui? Il était mort. Et il a dit, mais touchez-moi, touchez-moi. Il dit, un esprit, je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a pas de chair et n'a pas d'eau. Regarde, touchez-moi, je suis bien là. Donc il y avait vraiment cette composante comme nous, mais d'un autre côté, son corps avait quelque chose de différent. À un moment donné, il marche avec les disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et à un moment donné, il mange avec les disciples d'Emmaüs et il disparaît. Avec ses disciples aussi, il apparaît et il disparaît. Et lors de l'ascension, son corps s'élève dans les airs. Il déjoue l'attraction terrestre. Et c'est plus que des miracles. C'est quelque chose de particulier qui s'est passé. Et ce corps qu'a reçu Jésus à la résurrection, ce nouveau corps, cette nouvelle nature, cette nouvelle personne qu'il a été à ce moment-là, c'est l'espérance de l'Église. C'est notre espérance. Paul va dire aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication ne vaut rien. Et votre espérance aussi ne vaut rien. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes et de toutes les femmes. Et toujours dans cette même épître, il va annoncer que Christ a reçu un corps glorieux et que de même, nous aussi, nous recevrons ce corps glorieux. Waouh ! Quel programme ! Et il va décrire, comme il peut, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, il va prendre des images, il va dire ce qui est semé corruptible va renaître incorruptible. Ce qui est semé faible va renaître plein de force. C'est un corps glorieux. Et Jésus, il va le nommer dans cette épître, qui est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est le premier qui a vaincu la mort et de même nous aussi, quand nous recevrons ce corps glorieux, nous vaincrons la mort pour toujours. Waouh ! Et dans cet état qui vient, la maladie ne sera plus, la faiblesse ne sera plus, la mort ne sera plus et ça, c'est notre espérance. Waouh ! Et c'est vrai que lorsqu'il y a des guérisons qui se passent sur terre, ce sont des signes de ce royaume à venir qui se manifestent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est guéri physiquement, c'est l'annonce, c'est un signe qu'un jour, il n'y aura plus de maladie. C'est l'annonce, quelque part. Vous savez un signe, ce que c'est? Si par exemple on prend le pain, c'est le signe qui manifeste que ce pain représente le corps de Christ. Si on prend le vin ou le jus de raisin, puisque c'est le fruit de la vigne dans le texte, ce n'est pas forcément que du vin, eh bien, en fait, on manifeste par ce signe, en prenant cela, que c'est le sang de Jésus. Donc, on manifeste le signe d'une réalité spirituelle. Donc, quand ces guérisons physiques ont lieu, et nous en voulons, nous prions pour que les gens soient touchés dans leur santé. Et hier, je visitais quelqu'un qui est vraiment a tellement de soucis de santé, mais je prie, mais Seigneur, guéris-la. Et quand ces guérisons viennent, alors ce sont des signes qu'un jour, nos corps ne connaîtront plus la maladie. Amen. C'est un signe aussi, un grand miracle, c'est très souvent une résurrection. Mais si on y réfléchit bien, comme par exemple dans le cas de Lazare, il est ressuscité. Il a vaincu la mort quelque part, mais provisoirement, puisqu'après, par la suite, il est mort. Mais c'est un signe qu'un jour, la mort sera vaincue pour toujours. Waouh ! Alors Seigneur, des résurrections comme des signes de ce que tu vas faire pour toujours un jour. Et la vieillesse, nos corps connaissent la dégénérescence. On voit qu'à partir d'un certain âge, et je commence à le sentir déjà un petit peu, ça fait bizarre parce que dans sa tête, on est toujours jeune, mais ça ne suit pas des fois. Mais voilà, donc notre corps s'use quelque part. Et on le voit quand on discute avec des personnes plus âgées, il y a plein de soucis, de bobos qui viennent. Et d'ailleurs, je discutais une fois avec quelqu'un de ma famille qui est médecin, qui me disait que les coûts de la santé explosent à partir des dernières années de notre vie. Très souvent même la dernière année, avant qu'on meure. Parce que c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'interventions, de séjours à l'hôpital, de soins palliatifs qui sont extrêmement chers. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a cette dégénérescence du corps qui arrive là. Et Dieu a un projet pour nous libérer de cela. Dieu a un projet qui est la résurrection. Amen. Quel projet ! Mais en disant cela, on pourrait se dire, finalement, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, bah, ça s'arrête là. Fin de l'histoire, on attend la résurrection et tout est bien qui finit bien. Bon, on va aller un peu plus loin. Jésus a annoncé à ses disciples, donc, comme je vous l'ai dit, qu'il allait partir, qu'il allait envoyer l'Esprit-Saint, et il va leur dire que l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir, il dit ça dans Jean, chapitre 14, 15, 16, dans ses derniers, ce partage qu'il a avec ses disciples, il va dire que l'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et pour la justice, il va dire cette phrase étonnante, il va dire, donc de péché parce que le monde ne croit pas, et de justice car je vais vers le Père. L'ascension, c'est la justification du Fils par le Père. C'est le point final de l'œuvre du Père. Ce n'est pas seulement la résurrection. On s'arrête souvent à la résurrection. Lors de l'ascension, Dieu démontre, en élevant Jésus, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, sur le trône, Dieu démontre qu'il est juste aux yeux de Dieu, qu'il a été fait péché pour toi et pour moi, et qu'en montant vers le Père, il fait la démonstration de cette justice, et qu'il monte avec une nouvelle humanité dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel, assis à la droite de Dieu. C'est le nouvel Adam. Et c'est tellement profond que cette nouvelle humanité soit représentée dans les cieux, là où il y a les dominations, les puissances, les autorités. J'avais eu l'occasion des fois de prêcher sur l'ascension. Ça m'est arrivé parce que j'affectionne particulièrement cette fête. J'avais montré que le fait de s'élever pour Jésus, c'était un signe, comme je vous l'ai dit, comme pour la Sainte-Seine et pour le pain et le vin. C'est un signe. Jésus, quand il monte dans le ciel, ce n'est pas pour montrer qu'il a des super pouvoirs, comme on le voit dans les Marvel aujourd'hui et dans tout ça, quoi. C'est pas pour juste, hey, regardez qui je suis. C'est un signe. Quand il monte dans le ciel, c'est un signe d'une réalité invisible. Parce que Jésus aurait pu disparaître en un instant et être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas en haut, en bas. Il n'est pas dans ce monde physique. Donc quand Jésus monte dans le ciel, il démontre une réalité qu'il est élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Les trônes, un trône est toujours en hauteur et les sujets sont en bas. Le peuple est en bas. Donc quand Jésus monte dans le ciel, il démontre par ce signe qu'il est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Et il monte au-dessus de lui. Satan accède, on le voit, à une certaine autorité, une certaine liberté, et il peut se présenter devant Dieu. On le voit dans le livre de Job, il se présente, j'allais dire, à la cour céleste. Mais il y a un homme, une nouvelle humanité, qui est montée dans le ciel, au-dessus de toutes ses puissances, au-dessus de Satan, et il s'est assis sur son trône. Alléluia! Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur? Juste merci Seigneur d'avoir mis une humanité là-haut. Quelle gloire! Quelle... Waouh! Ça, c'est fort. Et le ciel était fermé pour tout être humain dans l'Ancien Testament. Quand on mourait avec ses péchés et rien ni personne ne pouvait nous l'enlever. Et le sang des sacrifices, le sang des boucs, le sang des taureaux couvrait le péché. Et ce qui se passait quand on mourait, on allait dans le séjour des morts qui était dans la terre, sous terre, pour donner une image, parce qu'on ne pouvait pas monter. Et il a fallu le sacrifice de Jésus qui, lui, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est descendu du ciel d'abord, une première fois. Il a perforé le ciel dans le sens de la descente, revêtu une humanité comme la nôtre, une chair comme la nôtre, sauf par rapport au péché, il était sans péché, mais il a revêtu notre corps, connu la faiblesse, connu ce corps avec cette faiblesse. Il est mort avec ce corps et il a condamné le péché dans ce corps et après il est ressuscité et là rien ne pouvait l'arrêter. Pour monter au ciel, rien ne pouvait arrêter cette nouvelle humanité. Il a perforé le ciel. Et dans cette perforation du ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Rien, plus rien ne pouvait arrêter la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné à certaines personnes. Et tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Et on voit que dans cette perforation du ciel, ce chemin qu'il a ouvert, cette ouverture, il peut accorder à tout homme, toute femme, tout jeune et moins jeune, le don du Saint-Esprit. Waouh ! Quelle grâce de se dire, rien ni personne ne peut nous enlever cela. Le chemin est ouvert. Tous peuvent se le recevoir. Et ce Saint-Esprit qui est venu, dont nous l'avons expérimenté dans nos vies, a fait de nous des nouvelles créatures. Il y a quelque chose du ciel qui est né en nous. Un goût des choses célestes. Un goût du royaume de Dieu. Et alors que nous vivions sans Christ, que nous ne le connaissions pas, nous vivions dans nos péchés, nous étions esclaves de la première nature, la nature d'Adam, l'héritage d'Adam. Nous étions vraiment soumis à cette nature, esclaves de cette nature et de ce péché. Et nous vivions selon nos convoitises, faisions le mal. L'Esprit de Dieu est venu dans nos vies. Et nous sommes nés de nouveau. Nés d'en haut, comme dit Jean, l'apôtre Jean, dans l'entretien que Jésus a avec Nicodème. Il te faut naître d'en haut. On traduit par naître de nouveau, mais c'est d'en haut. Et il va lui dire cette phrase pour lui expliquer, parce que Nicodème ne comprend pas. Jésus va dire, celui qui est né de la chair est chair, donc chair physique, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et cette naissance de l'esprit est ce qu'on appelle la conversion, le changement. C'est cette vie de Dieu en nous, cette nature nouvelle qui nous donne la capacité de combattre l'ancienne nature. C'est ce que l'apôtre Paul appelle aussi la chair. Alors l'apôtre Paul a un langage des fois qu'on ne comprend pas toujours. Il parle de la chair comme la chair physique, mais il parle de la chair aussi pour désigner l'ancienne nature, justement, notre héritage en Adam. Mais quand on vit cela, c'est extraordinaire, on peut tous témoigner ici de notre jour où ces choses de la vie de Dieu a commencé en nous, qu'on ne peut pas expliquer toujours avec des mots, qu'on peut expliquer avec des changements dans nos vies qui se sont passés, des transformations extérieures qu'on peut voir, mais c'est très profond en nous. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Jésus a tout accompli, certes, l'Esprit de Dieu est là, il y a une nouvelle nature qui a commencé en nous, mais tout reste à accomplir dans nos vies. Vous savez, souvent j'entendais des chrétiens qui disaient « Ouais, des fois vous vendez un peu votre truc, les chrétiens. Vous faites des campagnes d'évangélisation, vous dites « Jésus est la solution, si tu viens à lui, tous tes problèmes seront effacés ou tu vas trouver vraiment une vie incroyable. » Et on vend un peu ça comme ça. Et en fait, je dirais oui et non. Oui, Jésus est la solution. Je crois que c'est clair. Tout vient de lui. Il a tout accompli. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est le début du combat dans nos vies. C'est le début du combat entre la chair et l'esprit, entre l'ancienne nature et la nouvelle. Et ces deux natures s'opposent totalement. Elles ont des objectifs différents. Elles produisent du fruit différent. Parfois, ça m'arrive, mais pas souvent, je vous rassure, d'envier un petit peu les non-chrétiens, ceux qui ne sont pas régénérés. Parce que il me semble que leur vie est un petit peu plus simple. Je m'explique. Je ne dirais pas que la vie avec le péché est facile. La vie, le péché produit de la souffrance, produit de la division, enfin produit tout ce qui, vraiment produit même la mort. Alors ça, on est d'accord. Mais dans une certaine mesure, si quelqu'un, par exemple, a une inclinaison au mal pour certaines choses, on va prendre une caricature, quelqu'un pour qui il n'arrive pas à vivre la réalité du mariage et continuellement dans l'adultère, il ne va pas se sentir repris, pour le moins du monde, parce qu'il produit les œuvres de la chair. Vous savez que c'est même un business aujourd'hui. Il y a des sites internet qui vous donnent des occasions pour tromper votre conjoint. C'est-à-dire qu'ils vont vous créer des alibis, des fausses factures pour le travail et tout ça, pour que vous puissiez... Voilà, c'est un business. Donc, on comprend. Ça fait partie. Pour eux, ils ne se remettent pas en question. C'est comme ça. Alors, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Ils se remettent quand même en question parce qu'il suffit qu'il y a quand même... Tout le monde n'est pas comme ça et il suffit aussi qu'ils tombent sur des fois un chrétien. Mais ce n'est pas de l'intérieur. Ils produisent cela parce que c'est sa nature. Si on dit un pommier produit... Des pommes, c'est normal. On ne va pas dire à un pommier de produire des oranges. Vous êtes d'accord? Un pommier va produire le fruit de ce qu'il est, de sa nature, et va produire des pommes. À moins que ce soit un arbre transgénique, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout est possible. Bientôt, on ne pourra plus prêcher sur certaines images. Et ChatGPT fera nos messages. Mais tout ça pour dire qu'on a deux arbres en nous, en fait. Deux arbres qui produisent du fruit différent. Le pommier, si on peut dire, pour faire référence, ce n'était pas une pomme, mais au fruit de l'arbre défendu. Je dis n'importe quoi. Je me reconcentre. Le pommier, on peut avoir un arbre dans nos vies qui est le pommier, produit des pommes, et puis on a un autre arbre, un nouvel arbre. On a été greffé d'un nouvel arbre qui produit du nouveau fruit. Et choisissez le fruit que vous voulez. Et Jésus donc est dans le ciel, nous envoie l'Esprit, cette nature nouvelle est en nous, et il nous assiste, il est notre défenseur, notre paraclet, il est notre avocat auprès du Père, et il est celui qui transforme petit à petit en nous. pour être à son image, devenir comme Christ, cette humanité parfaite. Et ça, mes amis, ça s'appelle la sanctification. Comme lui, par le Saint-Esprit et par cette nature nouvelle qui grandit en nous, notre caractère est transformé à son image. C'est le fruit de l'Esprit. Comme lui, nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit pour témoigner. C'est un secours, une aide, pour guérir, pour chasser les démons. C'est cette double action du Saint-Esprit dans nos vies. Si vous voulez un petit peu en savoir un peu plus, j'ai parlé là-dessus lors d'une conférence avec l'école biblique Startup sur Pléro Pimplémi. Cette action de l'Esprit dans notre vie, comment il agit, comment il développe cette nouvelle nature en nous. Mais cela ne s'arrête pas là. C'est la première phase du salut dans nos vies. Et si le salut s'arrêtait là, ce serait triste, parce que la finalité, c'est la résurrection des corps. La finalité, la victoire complète sur le péché et sur nos vies, c'est la résurrection. Car la résurrection du corps mettra un point final, comme Jésus a mis un point final quand il est monté auprès de son Père, la résurrection mettra un point final au péché dans nos vies. Car l'ancienne vie, l'ancienne nature, sera englouti par la nouvelle. Quelle formidable espérance. Et c'est ce que dit Paul dans cet épître aux Colossiens quand il dit « Christ, en vous, l'espérance de la gloire ». Voilà cette espérance que nous attendons. Et c'est pourquoi dans le monde à venir, la tentation qu'Adam et Ève ont connue sera réglée. Notre révélation, notre élévation sera totale, comme Christ aura été totalement justifié. Nous serons à ce moment-là totalement justifiés et plus aucun combat en nous, aucune tentation. Et actuellement, nous sommes ressuscités avec Christ, c'est vrai, mais nous le sommes quelque part spirituellement, intérieurement. Actuellement, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, mais nous le sommes spirituellement, intérieurement. Mais un jour viendra où nous serons ressuscités avec lui, corporellement, extérieurement. Un jour vient où nous serons assis avec lui dans les lieux célestes, corporellement, extérieurement. Ainsi, l'ascension, c'est l'élévation de l'humanité tout entière. L'ascension, c'est quand Jésus s'élève, je m'élève avec lui. En deux temps, s'il est vrai, mais je m'élève avec lui. Et nous sommes dans ce processus d'élévation, déjà maintenant, par cette transformation intérieure jusqu'à la victoire et au salut total. La résurrection, voilà l'objectif. Après cette introduction, revenons au texte que je vous ai lu. Le titre de mon message est « Cherchez les choses d'en haut ». Cherchez les choses d'en haut. Lorsque Yinka Oyekan est venu le week-end passé dans notre église, il nous a donné un message vraiment de la part du Seigneur pour l'église. Et je vous encourage à l'écouter. Il avait reçu ce thème de la transition, alors même que nous n'y avons pas parlé de ce qui se passait au niveau de notre église. Et il nous a partagé des principes pour vivre cette transition en tant qu'église, individuellement, mais aussi communautairement. Il nous a parlé d'avoir les yeux fixés sur Dieu, c'est-à-dire regarder aux choses d'en haut. Nous avons deux manières en tant qu'Église de vivre cette transition. On peut la vivre selon l'ancienne nature, avec tous les désirs et les convoitises qui peuvent surgir dans ces moments de transition. Ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ah, c'est l'occasion de que, oh, enfin, on va pouvoir vivre ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que ça vient de ma nouvelle nature? Ou est-ce que ça vient de mon ancienne nature? Nous pouvons le vivre aussi, cette transition, par l'Esprit. Et là, si nous la vivons de cette manière-là, alors Dieu fera de grandes choses. Il nous a partagé que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Le salut ne l'est pas. Le salut est pour tous, tout à chacun. Mais les promesses par rapport à ce combat qui est là, elles sont conditionnelles. Nous pouvons donner accès dans notre vie soit à la chair, soit à l'esprit. Et c'est aussi bien communautairement qu'on peut le faire que individuellement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler communautairement, je vais plutôt parler aussi individuellement. Si nous voulons vivre des victoires, nous voulons vivre ces promesses, alors dans nos vies, il y a une porte à ouvrir et il y a une porte à fermer. Vous savez dans quel sens je parle de ces portes. Et dans notre texte, il commence plein de promesses. C'est un beau texte qui dit, mais si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ reviendra, apparaîtra, se manifestera, alors à ce moment-là, on sera manifesté dans la gloire. C'est la résurrection, c'est ce que dit ce texte. Alors ça, c'est la bonne partie, c'est le dessert. Mais on voit que la suite est moins réjouissante. Mais c'est une continuité. Ce n'est pas deux textes différents qui n'ont rien à voir. Faites donc mourir votre nature terrestre. Verset 8. Rejetez tout cela, colère, animosité. Ça, c'est le fruit de l'ancienne nature. Alors, la colère, elle n'est pas toujours mauvaise. Hein. La colère, il y a une bonne colère qui est préventive, mais il y a une mauvaise colère. Enfin bref, on pourrait s'attarder sur chacun de ces mots, mais c'est juste des exemples. On pourrait allonger la liste. Ne mentez pas les uns aux autres, vivons dans la vérité. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle, c'est un process, en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et la solution qui nous est donnée dans ce texte pour vivre cela, ce processus, c'est, il y a cinq verbes ici qui apparaissent, que j'ai remis un peu, cinq verbes d'action que nous a demandé d'agir. Cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. Faites mourir. D'ailleurs, le texte en grec, j'aime mieux, si on le traduit littéralement, c'est rechercher les choses d'en haut, là où le Christ est à la droite de Dieu assis. Des choses d'en haut, préoccupez-vous. Donc il y a cette notion d'aller chercher, faire cette action, de faire descendre ces choses qui sont en haut, là où Christ est, de regarder là-haut. Faites mourir, dépouiller, revêter. Ces verbes d'action nous montrent que l'action est attendue de notre côté. Dieu a fait sa part. Mais il y a cette part chez nous à faire. Et on pourrait prendre tous ces verbes et dire qu'il n'y a que deux mouvements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a nourrissez l'homme nouveau et affamez l'homme ancien, jusqu'à la mort. L'affamer. Et nourrissez l'homme nouveau, c'est le nourrir de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion, de la vérité, des œuvres de l'Esprit, de la vie de l'Esprit. Et affamer, c'est fermer nos écoutilles à parfois ce qu'on voit, ce qu'on regarde, à ce qu'on dit. Il y a plein de choses qu'on est appelé à fermer. Parce que quand on les laisse ouverts, quand on laisse ces choses dans nos vies s'entretenir, quand on ne les règle pas, eh ben on renforce l'homme ancien. On le rend plus fort en nous. Et après, on s'étonne qu'il y a ce combat en nous Et on s'étonne qu'on ne voit pas l'action de Dieu dans nos vies. Donc, ce n'est pas seulement de nourrir l'homme nouveau, mais il faut affamer l'homme ancien, l'être humain ancien. C'est un double mouvement. Vous voyez ce double mouvement. Faire mourir et nourrir. Lorsque j'étais pasteur en formation, j'ai eu la chance d'être formé par un pasteur qui avait une belle expérience. Ça faisait plus de 40 ans qu'il était dans le ministère et j'étais son dernier stagiaire, enfin pasteur en formation. Et il m'a dit une phrase un jour et je n'ai pas compris sur le moment. Mais c'est comme si c'était une phrase de Dieu. Vous savez, il y a des fois des gens qui vous disent des choses, mais ce n'est pas prêt encore à... J'ai compris plus tard. Il m'a dit, Christian, il faut t'occuper, prends soin dans l'Église des gens, mais surtout, prends soin de leur nouvelle nature. Prends soin des nouvelles femmes et hommes. Et surtout, ne perds pas de temps et prends pas soin de l'ancienne nature. Je dis, ah ouais, parce que tu vas t'épuiser si tu t'occupes de l'ancienne. Tu vas juste perdre ton temps. Prends soin de la nouvelle. Et ça m'est resté. Et c'est dans ce mouvement qu'on pourra vivre cette transition, finalement, entre l'homme ancien et l'homme nouveau. C'est dans ce mouvement qu'on pourra vivre individuellement ou communautairement, en regardant non vers le passé, mais en regardant vers l'avenir, en ne regardant pas aux choses de la terre, mais en regardant vers le ciel. En ne regardant pas à mon ancienne nature, mais à ma nouvelle nature. En faisant porter du fruit, non pas à mon ancienne nature, mais en faisant porter du fruit par ma nouvelle nature. Et là, on pourra entrer dans une vie victorieuse, réjouissante, pleine de joie et de vie. Et on termine avec le verset 11 de mon texte. On pourrait lire encore les versets suivants aussi, hein, 12, 13, 14, 15, 16, qui nous parlent vraiment. Il dit « Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Revêtez-vous de l'amour, la paix du Christ, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, etc. etc. » La reconnaissance cultivée. Il y a quelques clés qu'il nous donne par la suite pour vraiment nourrir l'homme nouveau. Et d'autres aussi qui sont pour faire mourir l'homme ancien. Supportez-vous, faites-vous grâce, etc., etc. Et nous terminons avec ce verset qui, pour moi, est l'aboutissement extraordinaire. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Plus de différence, plus de discrimination, plus de catégories sociales où se vivent les injustices. Mais seul Dieu et ses enfants, seul Dieu et son amour au milieu de nous. Waouh, quel programme! Alors que le monde cherche, sans y arriver, cette réalité-là, la société, dans ses combats sociétaux, cherche à régler la question de l'égalité entre hommes et femmes, donner droit aux minorités, donner une chance à tous ces combats, à toute cette injustice qui est là, alors qu'elle cherche de tout son cœur, par ses propres moyens, elle n'y arrivera pas, parce qu'elle n'a pas cette nature nouvelle. Parce que le péché produit le contraire. Le péché produit la division, le péché produit la séparation, le péché produit la domination, le péché produit l'exclusion, l'égoïsme, le narcissisme. Encore hier, j'entends une situation d'une personne pervers narcissique qui a fait tellement de mal dans une famille. Ça, c'est le produit du péché. Et ça, le monde, malgré tous ses discours, toutes ses campagnes, ne réglera pas les pulsions sexuelles. On veut faire des campagnes MeToo, on veut changer le monde par des campagnes et du dialogue, mais la nature humaine ne changera pas. Et ça, le monde a besoin de vivre cela. Et c'est pas Ils ne le verront pas si nous ne le vivons pas. Ils ne le trouveront pas si nous ne nous le trouvons pas. Mais lorsque nous commencerons à manifester l'Église, ce royaume de Dieu, le monde entier va accourir. Et vouloir cette vie-là. Et je pense que nous n'aurons pas besoin d'aller chercher les gens dehors, parce qu'ils viendront d'eux-mêmes. Ils viendront chercher cela. C'est eux-mêmes qui pousseront la porte de l'Église, parce qu'ils voudront vivre cette réalité-là. Et l'Église, c'est plus qu'un bâtiment. Ce n'est pas une salle. C'est vos maisons, vos foyers, les lieux de nos rassemblements. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, et c'est ça l'Église. Et comme il est dit dans le livre des Actes, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, j'ai hâte de vivre pleinement cette réalité que nous vivons en partie. Et que toutes les églises vivent cette réalité-là. Toutes ces églises locales qui ne forme qu'une église, l'église de Jésus-Christ. Et je terminerai avec cette phrase, ce mot des réformateurs qui disait « Soli Deo Gloria », c'est-à-dire « À Dieu soit toute la gloire » seulement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que tu es la réalité. Et Seigneur, je prêche premièrement à moi-même toutes ces choses. Seigneur, viens au secours de nos situations. Tu nous connais, chacun et chacune. Tu connais les combats de la chair que nous avons, qui sont peut-être différents, qui sont similaires de l'un à l'autre. Tu connais mes combats personnels, Seigneur. Délivre-moi de ce corps de mort, de cette nature, et fais-moi entrer dans cette marche par l'Esprit, cette vie par l'Esprit. Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour ton amour et ta patience, alors que nous n'allons pas aussi vite que nous devrions. Merci de ton amour qui est là, qui nous encourage, qui nous reprend, mais qui nous fait marcher et nous donne cette capacité. Merci, Saint-Esprit, d'être là dans nos vies et nous aider sur ce chemin, d'être notre paraclet, celui qui marche, qui est là à côté de nous, notre coach, cette personne qui nous parle et qui change nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père. Amen.